Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de l'ère Hermès, spécialiste mondial de l'assurance crédit. On va parler avec vous des marchés émergents, parce que ce sont ceux qui typiquement ont fait l'actualité. Alors quand on parle il faut parler marchés émergents, parce qu'il y en a tellement de différents. Vous dites, vous, qu'il y en a certains quand même qui ont peut-être plus à craindre de ce qui s'est passé. Revenons à ce qui s'est passé. De votre point de vue, c'est véritablement ce qu'a fait la réserve fédérale américaine qui a joué?
Alors, je crois que l'idée de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe maintenant depuis plusieurs trimestres, c'est vraiment le sevrage monétaire de l'économie mondiale. Durant près de 2 ans et demi, la politique expansionniste de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, mais aussi de l'Angleterre, du Japon et quelque part de l'Europe, ont créé une espèce de surliquidité et notamment un dollar peu cher qui est allé se loger dans des endroits où les rendements étaient plus importants que sur des portefeuilles obligataires aux États-Unis comme en Europe, et notamment donc dans des projets, que ce soit des projets d'infrastructure, mais aussi du financement sur les marchés boursiers, en equity, etc., sur les marchés émergents. Donc, une fois que la Fed annonce en mai qu'elle va arrêter cette liquidité, certains pays ont surréagi. L'idée, c'est de ne pas perdre de la liquidité, et donc dévaluer était une des solutions les plus faciles pour éviter que l'investisseur ait une incitation à rapatrier le cash tout de suite. Et donc, on a vu que cette vague de dévaluation, mais plus tard cette vague aussi d'augmentation des taux, de contrôle de change, s'est accélérée au quatrième trimestre 2013 et surtout au début de l'année 2014, rappelant à tout le monde pourquoi on utilise encore la terminologie émergente pour des grands pays comme le Brésil, l'Inde, l'Indonésie ou la Turquie.
C'est-à-dire, quelque part, il faut rappeler que ce sont des pays qui dépendent pour beaucoup de flux financiers extérieurs encore, plutôt qu'un marché intérieur suffisamment important, on va dire, pour générer ces flux.
Alors l'idée, c'est exactement celle-ci, c'est-à-dire que la plupart de ces pays-là sont aussi connus pour avoir ce qu'on appelle un déficit courant important, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du financement de l'épargne des autres pays pour continuer de fonctionner en tant qu'économie. La Turquie est un excellent exemple, mais on voit aussi le Brésil, l'Indonésie. Le Brésil, c'est 3% du PIB de déficit courant. La Turquie, c'est entre 6 et 7%. Ce sont des pays qui ont besoin, en effet, des capitaux étrangers pour continuer de produire, de consommer et aussi de faciliter, si vous voulez, l'environnement des affaires. C'est-à-dire que leurs entreprises sont extrêmement dépendantes des capitaux et des flux étrangers.
Alors, on a vu certains pays puiser dans leurs réserves monétaires. Alors, certains en avaient un stock important, d'autres en ont moins. On a vu quand même des montants assez significatifs de ce côté-là.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, les montants qui sont arrivés dans ces pays-là étaient aussi extrêmement significatifs. On parle de plusieurs centaines de milliards qui sont arrivés sur les marchés émergents, que ce soit en effet les 4-5 gros. Au final, ce qu'on voit aussi, c'est que les banques centrales ont essayé de jouer le jeu, d'éviter la crise de balance des paiements. On a quand même pas mal de pays, on le voit aujourd'hui encore avec l'Ukraine, qui ont des problèmes de capacité de couverture d'import de quelques mois, ce qui veut dire qu'au final, le pays pourrait se retrouver avec pas assez de réserves pour faire des importations stratégiques. Et donc au final, on voit que les pays n'ont pas hésité, encore une fois, à aller puiser dans leurs réserves. Même un pays comme l'Argentine, qui n'a pas accès aux capitaux étrangers depuis maintenant plus de 12 ans, n'a pas hésité à aller, en effet, déprécier sa monnaie, mais surtout autoriser les entreprises comme les individus à avoir de l'épargne en dollars. Alors, dans la vérité, ça se fait de façon encore assez rationnée, mais ça veut dire qu'en effet, la banque centrale se retrouve, elle, dépourvue de certaines réserves en dollars qui lui permettent encore aujourd'hui de fonctionner, notamment sur les importations de l'Argentine. Donc, il y a eu un effet, un dogme qui a un peu changé sur la vision que les émergents avaient de la liquidité monétaire venant des avancées. Et ça, c'est un peu la nouveauté.
Alors, on a eu, on peut dire, deux temps. Vous avez rappelé celui de 2013, celui de 2014. Est-ce que ça a eu un impact d'ores et déjà sur les entreprises, justement, sur leur situation financière, parce que c'est important aussi dans ce domaine-là.
Alors nous, ce qu'on pense vraiment, c'est qu'il n'y a pas de crash collectif des marchés émergents, parce que, comme vous l'avez rappelé, ce sont des marchés émergents et pas un ensemble de pays émergents comme une union économique et monétaire qu'est l'Europe. L'idée aujourd'hui, c'est que le premier tour d'impact a été en effet vu sur les capitalisations boursières. Elles ont toutes perdu, du moins, pris le choc de plein fouet et donc perdu plusieurs points de pourcentage. Mais au final, la vraie question qu'on se pose, nous, en tant qu'assureur crédit, c'est celle, en effet, des effets de second tour sur les canaux de financement, notamment le risque de credit crunch dans certaines de ces économies, mais aussi les risques de non-paiement. Si vous êtes un exportateur français, vous exportez vers la Turquie, bah aujourd'hui, votre même client turc doit trouver 10-15% de plus de monnaie locale pour vous repayer dans votre monnaie qu'est l'euro. Donc c'est vrai que le risque de non-paiement est aussi un risque qu'on regarde et qui a d'ores et déjà impacté pas mal d'entreprises qui exportent vers les gros pays émergents. Donc le ralentissement de l'économie, les risques de non-paiement par les entreprises partenaires et le risque de financement de certaines de ces entreprises pour les investissements. Ce sont des pays qui croient vite et donc le secteur privé a besoin de canaux de financement. Ce sont des risques qui, à mon avis, sont plus importants à horizon moyen terme, donc sur toute l'année 2014, que le symptôme de ce syndrome qu'ont été les risques sur les capitalisations boursières.
Et on peut dire que c'est rajouté à ces questions de flux hein, et de conséquences sur ces retraits de flux des sujets politiques. Vous avez parlé de l'Ukraine, on est en pleine actualité sur l'Ukraine, mais il y a eu aussi la Thaïlande, il y a eu le Venezuela aussi dans l'actualité récente. Donc on va dire ces pays émergents, là, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude.
Bah, l'idée, c'est qu'au-delà de la fin des politiques monétaires expansionnistes, il y a eu la demande de la Chine qui se stabilise et qui crée forcément une espèce de goulot d'étranglement sur les débouchés de pas mal d'entreprises qui cherchaient un avenir plutôt en Asie. On l'a vu sur les entreprises notamment qui sont dans les secteurs proches du consommateur, qui ont vu leurs ventes baisser ou parfois ralentir dans les pays asiatiques. Et puis, comme vous l'avez rappelé, ce sont des pays qui sont soumis aux risques politiques forts. Au-delà des risques purs politiques que sont l'expropriation, la confiscation, qui continue d'être aujourd'hui un problème pour pas mal d'entreprises. On pense à l'Argentine avec Repsol, on pense à la Hongrie, on pense à la Bolivie, le Honduras. Pas mal de pays sont encore victimes du risque politique pur, mais on voit aussi surtout le risque de politique publique. En 2014, 46% de la population mondiale va voter. Et donc il y a forcément une inquiétude sur les directions des politiques industrielles, des politiques d'investissement, d'attractivité de gros pays émergents qui aujourd'hui sont les soutiens de la croissance mondiale dans une moindre mesure que l'année dernière, parce qu'aujourd'hui on voit quand même la reprise dans les pays avancés se dessiner, donc la part de la contribution au PIB mondial des économies émergentes se réduire légèrement, mais elle reste quand même les vrais soutiens, les vrais moteurs de la croissance mondiale, et notamment lorsque la demande dans les pays européens ne repart pas, lorsque l'équipement nécessaire pour réindustrialiser les États-Unis viendra aussi de ces pays-là. C'est vrai que les problèmes politiques économiques deviennent plus importants dans ces pays-là qu'ils n'ont été avant. On avait oublié, parce qu'en Europe, un des bienfaits de l'euro, c'est peut-être que dans la même situation, si nous n'avions pas eu l'euro, la France ou l'Espagne auraient déjà dévalué plusieurs fois sa monnaie pour faire face justement au rétrécissement de ces canaux financiers. Ces pays-là peuvent encore le faire. Ils ont prouvé qu'ils étaient extrêmement réactifs pour le faire. On sait aussi qu'ils sont assez résilients, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'ils ont ces problèmes de fuite de capitaux, donc on est assez sûr que ça ne se posera pas un problème majeur, covariant pour l'économie mondiale. Le vrai problème, c'est quand vous commencez à avoir un pays qui est vulnérable à la fuite de capitaux, comme la Turquie, et qui en plus a des élections majeures, et connaît aussi des problèmes diplomatiques et géopolitiques. Quand tout ça s'additionne, on a des situations un peu dramatiques, comme on le voit au Venezuela, en effet, en Thaïlande et en Ukraine, mais aussi en Turquie.
Donc quelque part, il va falloir faire le tri dans tous ces pays émergents. Ça va être la clé, effectivement, et très essentielle si on ne veut pas se faire d'erreur pour, en tout cas, les entreprises.
C'est ça. Alors nous, chez Euler, on a exactement identifié 10 pays qu'on appelle fragiles, 4 pays qu'on appelle faibles. Les pays faibles sont principalement les pays qui ont des risques politiques forts, donc en effet le Venezuela, la Thaïlande, l'Ukraine et la Turquie, mais après, et puis un peu la Russie. Mais après, sur les pays fragiles, en effet, on a des pays sur lesquels on pense que l'impact en termes de croissance sera assez limité, notamment l'Indonésie. On pense que le financement de la part du Japon, mais aussi la résilience de l'économie indonésienne, vu les réformes structurelles qui ont été mises en marche, permettront à l'Indonésie de rester une niche intéressante en Asie du Sud-Est. En revanche, c'est vrai que le Brésil, si les politiques publiques ne changent pas, si le protectionnisme ne se réduit pas, si le problème du financement du secteur privé et surtout de la bureaucratie nécessaire pour faire des affaires n'est pas résolu à court terme, alors, en plus, dans une période préélectorale, c'est vrai que c'est un pays qui continuera d'être un poids mort pour la zone d'Amérique latine, au lieu d'être le moteur qu'on attendait tous.
Merci Ludovic Subran d'avoir fait le point avec nous, donc chef économiste chez Euler Hermès.
Merci.